France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, j'accueille Éric Orsenna qui chante beaucoup dans la vie comme dans son dernier roman, un voyage amoureux et enchanteur où l'on croise Leonard Cohen, Barbara ou Franz Schubert. Une occasion de revenir en musique sur l'itinéraire du prix Goncourt 1988, conseiller des politiques mais aussi passionné de géographie, biographe de La Fontaine, mais aussi ami de William Christie et des griots africains. Éric Orsenna est mon invité dans quelques minutes en fin d'émission Musique Légère avec Serge Laïc. Et d'abord, vous le savez, c'est aujourd'hui un grand jour pour les vaches.
Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs. La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans. Une vache à 5000 francs, on ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant, c'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient un harpajon par un calcul habile. Une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie. La vache n'a plus de Paris, la vache est au Gobelin, multipliée par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi. Et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant, autant qu'on en voulait et plus qu'il ne fallait. À midi au dîner, dans le café au lait, de la vache à 500 francs, c'est déjà plus gênant. Moi quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs, de la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolans et se faire des homards tartinés de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an, on la mangera truffée sur un grand canapé et on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'entasserai des rumsteaks et des coupons de beefsteak, la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on ne peut plus suivre la vache. Oh la vache, la sale vache. Oh la vache, nous rendra fous. Oh la vache, la sale vache. Oh la vache, nous rendra fous.
C'était en 1961 avec l'orchestre de Pierre Guillermin. Vous avez reconnu peut-être la voix de Jean Poiret qui nous résume toute la question de l'industrie agroalimentaire dans ce pastiche de la fameuse valse de Jacques Brel. Tout ça pour vous dire que, eh bien, si vous voulez venir assister à Étonnez-moi Benoît, attention, ce ne sera pas en direct, hein, c'est vendredi prochain au Salon de l'Agriculture. Il y aura un spécial musique et agriculture. Si vous voulez venir à partir de 14h15 dans le hall 1 au stand Radio France, eh bien, vous assistez assisterai donc à l'enregistrement de l'émission du lendemain d'Étonnez-moi Benoît. J'accueillerai notamment Jean-François Kahn et Pierre Bonte qui viendra nous parler de nos villages de la France profonde à 14h15 donc vendredi prochain au Salon de l'Agriculture.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité, un écrivain fou de musique. Et ils ne sont pas si nombreux, vous savez, dans l'élite française, qu'elle soit littéraire ou politique, où l'on est souvent un peu sourd et très absent des concerts. Ça n'est sûrement pas son cas à mon invité aujourd'hui. Il vit avec la musique. Lui qui a eu le prix Goncourt en 1988, qui a écrit de très nombreux ouvrages, qui a été le conseiller de François Mitterrand, mais qui ne peut pas concevoir l'existence sans quelques chansons. On le comprend d'ailleurs dans son nouveau livre « Brisez en nous la mer gelée ». J'accueille ce matin Éric Orsenna.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur les temps, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. Que ses doigts se dénouent comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. J'en dirai, j'en dirai. Pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Bonjour Éric Orsenna.
Bonjour Monsieur Dutertre.
Vous chantez pour passer le temps, vous aussi?
Je n'arrête pas de chanter.
C'est vrai?
Je n'arrête pas de chanter.
En vrai?
En vrai, en oui. vrai. Et figurez-vous que j'ai même fait un disque dans une sorte de best-seller de la salsa.
Ah oui?
Absolument. Et que juste après avoir été élu à l'Académie française, j'avais fait une petite fête qui s'appelait « D'une coupole à l'autre ». Et alors, c'était la coupole de l'Académie, et ensuite, on a été en sous-sol
de la coupole Montparnasse.
Et il y avait le rideau rouge qui était fermé, je me suis avancé, tout le monde croyait que j'allais saluer mes copains, et bon, voilà. Et puis, l'orchestre derrière a commencé à envoyer, et j'ai chanté une salsa.
D'autant plus que c'était le lieu historique des orchestres cubains à Paris.
L'orchestre cubain, c'était là. Voilà. Alors imaginez la stupéfaction. C'était formidable. Et j'ai fait 15 dates avec eux. J'ai écrit même une salsa libertine qui s'appelle « Jaloux de la pluie ».
Avec... Alors, il va falloir qu'on ressorte
ça. Ben, c'est immense.
C'est un
chef-d'œuvre immense. Mais alors, franchement, j'ai connu beaucoup de bonheur dans ma vie, mais devant un orchestre cubain, et quand ils envoient, ouh, alors là...
Alors, bon, j'ai choisi cette chanson d'abord parce que j'adore Léo Ferré, vous aussi. Les chansons d'Aragon, C'est Aragon une espèce immense, de perfection.
La langue, c'est Ronsard, c'est tout ça. Comme vous disiez, c'est Hugo, c'est tout ça. C'est
la facilité
absolue. Il est au cœur de la langue.
Voilà. Et puis, c'est quand même une chanson sur la richesse de la vie, sur sa diversité. Je trouve que votre dernier livre, Briser en nous la mer gelée, c'est aussi une ode à la richesse de la vie, au voyage, aux expériences, à la fantaisie, au rythme. Il y a tout ça. Il y a des passages tristes aussi, mais voilà, il y a plein d'histoires dans une histoire qui a cette fraîcheur qu'on sent peut-être dans cette chanson, sur la chanson de Léo Ferré et d'Aragon.
Mais c'est bien avec les romans, c'est que de temps en temps, je crois que l'exercice d'un roman est un exercice nécessaire.
Ouais.
Alors qu'on publie ou non, mais parce que dans le roman, justement, on peut rassembler des êtres, des musiques, des choses, des lieux voilà. qui n'auraient pas dû être ensemble.
Ouais.
Comprenez? C'est-à-dire une femme romantique et un pharmacien, c'est pas évident.
Ouais, ouais.
Comprenez? Des choses comme ça. Et donc on les met ensemble et on voit ce qui se passe.
Voilà, et donc, puis une leçon sur Spinoza, des réflexions sur les chauves-souris.
Les chauves-souris, je suis extrêmement fier. Parce que quand même, les chauves-souris, on ne savait pas à l'époque que la chauve-souris était le premier animal qui a produit ce virus qui, après, a été transformé sans doute chez un petit rongeur qui s'appelle le pangolin et qui a donné le coronavirus.
Et ben voilà.
Donc vous rendez compte. Ouais. Donc on dit, un an avant, on donne ce drôle de métier, chercheur en chauve-souris.
Ouais. Alors on va revenir à ce roman merveilleux, très riche. Oui, je le disais, chaque chapitre est comme une histoire, mais en même temps tout ça forme une vraie histoire dans laquelle on se laisse porter. Mais la musique et la chanson sont d'ailleurs très présentes hein, dans ce livre. Il y a Barbara, il y a Leonard Cohen, il y a Le Voyage d'hiver et beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique.
Beaucoup de musique, beaucoup hein de musique. Il se trouve que dans ma famille, le musicien, c'était mon petit frère.
Ouais.
Donc, il faisait de la guitare classique ouais. avec des très bons professeurs. Et moi, j'avais pas le droit à la musique parce que, bon, mes parents m'avaient pas interdit. Mais enfin, mon frère, c'était la musique et moi, je racontais des histoires. Et puis, simplement, mes parents, qui s'entendaient pas très bien, mais ils adoraient aller ensemble écouter des chansons. Donc, tous les cabarets, College Inn, tout ça, l'Écluse, tout ça. Donc, ils nous emmenaient, nous.
Et vous alliez là-bas avec
eux. Et j'allais là-bas.
Ça, c'est extraordinaire.
Donc, j'ai entendu Brassens, j'avais moins de 10 ans. Et comme on était des habitués, j'étais aussi habitué à 10-11 ans dans les cabarets. On entendait. Donc, c'est comme ça que j'ai vu Ferré très tôt, j'ai vu le tout premier Barbara. Et donc, j'étais fou de l'histoire. Et vous savez, le petit cheval blanc, comme ça,
oui,
ce genre
tient,
de choses.
On va l'écouter, justement. Ah, mais,
je me suis dit, tiens, la langue doit chanter. Et je me souviens d'une phrase qui m'est arrivée plus tard, et j'étais très content de cette phrase. Sans musique, la vie rappe.
C'est joli. Ouais.
Et j'étais content parce que, vous savez ça, comme moi, l'écriture, c'est comme en musique, le mot juste.
Ouais.
C'est-à-dire, admettons, c'est pas juste, ouais, admettons, et voilà, c'est juste.
Faut que ça...
Juste comme ça. Et quand c'est juste, c'est vrai.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage, Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
Le petit cheval blanc, c'était Brassens, donc sur la poésie de Paul Fort que vous avez entendu tout petit.
Tout petit, presque, alors ma mère me consolait, elle aussi, on se consolait mutuellement. Et alors, quelle
ça
merveille
mal, oui, c'est
oui,
triste,
bah,
hein,
oui, c'était horrible, la foudre, tout ça. Et c'était terrible. Mais quelle plus grande douceur d'être consolé par sa mère et de consoler sa mère.
Voilà.
Donc, elle était dans ses bras parce qu'elle était très tendre, une monarchiste très tendre, et qui avait dans son idée que je sois écrivain.
C'est elle qui l'avait prévu,
elle
ça.
Elle avait décidé.
Voilà.
Et moi, comme je suis un homme facile, j'ai dit oui.
Elle s'entendait moyennement avec son mari. D'après
oui,
ce que
oui,
vous avez
très,
écrit.
Très, hein. très moyennant, mais...
Mais ils aimaient tous les deux la musique. Voilà.
Et j'adore la différence entre entendre et écouter.
Et écouter.
Donc ils écoutaient la même chose. Et peut-être pensaient-ils qu'un jour, il y aurait une chanson qui les rassemblerait.
Voilà.
Je pensais ça.
Alors vous disiez que vous aviez chanté la salsa au sous-sol de la coupole, mais rappelons aussi que votre père, lui, est d'origine cubaine.
Voilà, de toute la grande famille, du côté de mon père, ils ont été cubains pendant tout le 19e siècle et au début du 20e. Donc pour nous, l'oncle d'Amérique, c'était quelqu'un qui était à Cuba.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et mon grand-père, c'était amusant, qui était extrêmement conservateur, mais Castro, c'était son héros absolu. Alors, c'était absolument contradictoire.
Un paradoxe
total.
Effectivement. Alors, votre frère, lui, jouait de la guitare. Vous détestiez la guitare à ce moment-là, parce que c'était votre frère qui excellait dans ce domaine auquel vous n'aviez pas accès.
C'était très désagréable, parce que chaque fois qu'il y avait des amis, il jouait. Et comme il jouait très bien, c'était encore plus désagréable. S'il y avait mal joué, non. Et puis, il y avait une cloison extrêmement mince entre la chambre de mon frère et moi. Et donc, Villa-Lobos, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi.
Voilà. Mais vous avez écrit, alors, longtemps après, en 1996, un livre qui s'appelle « Histoire du monde en 9 guitares ». Donc finalement, la guitare vous a rattrapé.
Avec mon frère, on l'a écrit tous les deux. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle qu'il ne sait pas encore, parce que je viens de recevoir la traduction en allemand du livre. Donc je vais lui remettre demain.
Ouais.
Voilà, donc c'est très très joyeux, parce que c'est vrai que toutes les guitares existent depuis toujours, enfin toutes les formes de guitare.
Oui.
D'ailleurs, je saisis cette occasion pour dire aux gens d'aller au musée de la musique, à la Cité de la musique.
Oui,
parce qu'il y a vraiment des merveilles d'instruments. Et alors, le contenant et le contenu, là, c'est vraiment un accord total.
Voilà, et dans ce livre, il y a des guitares brésiliennes, il y a des guitares bien africaines, sûr. Il y a des guitares européennes.
Il y a Hendrix, il y a tout ça, il y a tout le monde.
Hendrix.
Et Jimi Hendrix, bien sûr.
Voilà. Et d'ailleurs, ça a été pour moi l'occasion de remarquer aussi que la chanson et la musique plus largement ont une grande place dans les titres de vos livres. Hein. Vous avez commencé avec un blues, Loyola's Blues. Il y a l'histoire du monde en 9 guitares. Il y a la grammaire est une chanson douce. Il y a la chanson de Charles Quint.
Alors, la grammaire, ça c'était une histoire amusante. C'est que j'avais rencontré Henri Salvador à une dictée de Pivot.
Oui.
Et je me souviens, c'était à l'Assemblée nationale. Et puis, voilà. Moi, j'étais à côté de Lambron, donc je l'ai copié. J'ai fait que 3-4 fautes. Mais
il est meilleur que vous, en orthographe.
Ah bah oui, il est très 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 fort. Un normalien, il est très très fort. Et Salvador, il a fait 70 fautes. Alors, il me dirait, il faudra qu'on se voie. Et puis, son obsession était que je fasse des chansons, parce qu'il dit, tu, avec son rire, tonitruant, écoute, moi, je fais rien, je gagne plein de pognon, toi, tu bosses comme un fou, tu gagnes pas du tout assez, donc fais des chansons avec moi, et tout ça. Donc, et quand j'ai voulu raconter la grammaire, comme l'éditeur avait dit, jamais grammaire dans le titre, ça se vendra pas. Donc, j'avais vu avec lui pour adoucir un peu l'affaire. Et la grammaire est une chanson douce, est née comme ça.
Donc, c'est en référence à la chanson douce d'Henri Salvador.
D'Henri Salvador,
bien évidemment.
Qui était une merveille et tout ça. Et d'ailleurs, c'est incroyable, chez lui, sa voix n'a jamais vieilli. Et il a fait des concerts jusqu'à quasiment 90 ans, et sa voix ne vieillissait pas. Et alors, avec l'âge et le concert, il me disait cette phrase formidable. Avant le concert, j'ai mon âge. Pendant le concert, j'ai 30 ans. Après le concert, j'ai 150 ans. Et j'aime bien ces rapports avec l'âge, vous voyez, c'est ça. Ouais. Les voix qui demeurent alors que tout le reste s'effondre.
À propos d'âge, Éric Orsenna, votre mère donc a décidé que vous seriez écrivain.
Oui.
Vous-même, vous l'avez décidé au même moment, tout
au
de
même
suite.
Au même moment, c'est pareil, parce que elle m'a dit c'était très mignon et c'était un personnage merveilleux. Donc elle était monarchiste, donc elle me racontait des histoires de rois, de reines. Et puis mon père, qui était marin, me racontait des histoires de bateaux, de pirates, de sous-marins. Et puis, à ma mère, à un moment donné, me dit bon, écoute, à un moment donné, je serai plus là pour raconter d'histoires, ou t'as tellement envie d'histoires, je peux pas raconter. Donc invente des histoires. pour toi-même, soit autonome, comme on dit, circuit court. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ben, je vais raconter des histoires.
Mais alors, si vous êtes devenu un homme important, notamment dans le domaine, par exemple, de la finance, etc., c'était parce que vous saviez qu'écrivain, ce n'est pas un métier, ou alors, vous considériez que ce n'était pas un métier?
Alors, ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est impossible de faire autrement. Et puis, ça doit être vraiment le lieu de la liberté totale. Ouais. Donc il y a des moments des rafales de publication parce que bon, on a envie de publier et puis on a deux trois choses éventuelles à dire, mais autrement non. Et donc c'était cette idée que un autre métier, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je voulais pas être prof de lettres. Non. Parce que je ne voulais pas être prof de ma passion.
C'est vrai.
Je voulais avoir un métier qui me renseigne sur le monde. D'où l'économie, je me suis dit. Et puis j'ai toujours été passionné par le répondre à la question comment ça marche.
Ouais.
Donc comment marche le monde. Donc, mais comme je voulais du concret, j'ai pas été prof d'économie abstraite. J'étais prof des matières premières. Et quand François Mitterrand a remporté l'élection présidentielle, il m'a demandé quelle responsabilité je souhaitais exercer. J'ai dit les matières premières. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui pendant 2 ans a été Monsieur Café, Monsieur Cacao, Monsieur Caoutchouc. C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal et c'est ainsi donc que la politique vous a d'une certaine façon rattrapé.
Jadis les rois race proscrite enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites sans flatteur mille courtisans. Sous le directoire, tout change, pourtant ne vous y fiez pas. On dit, mademoiselle Longe, la favorite de Barras. Barras est roi, Longe est sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine d'assurer de changer le gouvernement.
Barras est roi, Longe est sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine.
Pour épuiser la France entière, les rois avaient des financiers. Et Barras à la Rivaudière qui paye tous ses créanciers. Seulement, ce qu'on ne dit guère, c'est qu'on débit des tribunaux. Et Barras paye la Rivaudière avec les biens assis. Oh non. Voilà comme cela se mêle. Ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine. Non pas la peine d'assurer le monde de changer de gouvernement.
Voilà comment cela se mêle. Ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine.
Des favorites infidèles, on sait quelles étaient les mœurs. Les rois étaient trompés par elles. Aujourd'hui sommes-nous meilleurs? Non, car l'amour est hypocrite et la Rivaudière est chérie. Un prix d'or de la favorite, il est dit trop. Ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément de changer le gouvernement.
Une chanson insolente et désabusée sur la politique, hein. C'est dans la film Madame Angot. C'était pas la peine de changer de gouvernement après toutes ces révolutions et contre-révolutions.
Vous savez, le film comme ça, tout ça pour ça.
Tout ça pour ça.
Qui parlait des divorces. Ça veut dire après les élections, comme ça, à chaque fois on le montre, ah, l'espoir est là. Et bien évidemment, ça marche pas.
Ça vous a pas empêché de vous engager à plusieurs reprises dans votre vie. Donc vous pensez qu'il faut quand même
faire de la politique. Il y a des choses qui ont été faites dont je suis, j'ai participé un tout petit peu, mais c'est vrai que c'était très passionnant. Vous savez, moi, je suis entré dans un parti où était Michel Rocard, qui s'appelait le PSU.
Le PSU, vous avez commencé chez Rocard et vous êtes arrivé chez Mitterrand, ce qui est inattendu.
Alors, oui, et alors, mais ce qui est encore plus inattendu, c'est que Rocard m'appelait le seul mitterrandien fréquentable.
Ah, voilà.
Donc, vous voyez, la possibilité, déjà le en même temps. Déjà. Voilà. Donc, c'est vrai. Et comme était, parce qu'il faut savoir que Rocard était un de ceux qui avait refusé Mitterrand quand il avait voulu entrer au PSU.
Ah, Mitterrand avait voulu entrer
mais
au
oui,
PSU.
Mais oui, parce qu'à un moment donné, il était dans la période un peu difficile de sa vie, hein, les nombreux moments où ça n'allait pas. Et puis, il voulait. Et comme il avait eu des relations un peu compliquées avec l'Algérie, dite Algérie française, en tant que ministre de l'Intérieur, donc au PSU, en PSA à l'époque, pas question.
Et vous avez eu des vraies satisfactions dans cette vie politique à laquelle vous vous êtes associé comme conseiller, notamment à l'Élysée pendant des années. Vous avez pensé que vous avez réussi
Écoutez, quand vous êtes conseiller culturel de François Mitterrand, d'abord, c'est quand même une escroquerie parce que être conseiller culturel de Mitterrand, alors il y a des gens qui ont suivi qui n'étaient pas des puits de culture. Enfin, Mitterrand. Alors, il y avait une seule chose qu'il n'aimait pas, c'était la musique.
Ça, c'est vrai, on le sait.
Non, mais c'est fascinant, quoi.
C'est qu'il ne l'entendait pas, il ne comprenait pas. Voilà.
Mais d'une certaine manière, comme Malraux. C'est très frappant. Ouais. Il y a des gens comme ça, ils s'en foutent, quoi. Ça n'existe pas. Et quand j'avais un concert inouï, mais des trucs formidables, ils me disaient, voyez ma femme, qui aimait un peu plus, quoi.
Un peu plus. De toute façon, la classe politique française n'entend pas beaucoup la musique.
Non, mais c'est incroyable. Incroyable, tout ça. Donc, j'étais absolument fasciné. Le reste, la culture, c'était extraordinaire. Oui, donc, quand on allait en voiture blindée, parce que c'était au moment des attentats, il y avait des policiers partout. Et alors, rituellement, ils disaient, alors, Éric Arnoux, puisque c'est mon vrai nom. Alors, Éric Arnoux, que se passe-t-il? Je lui tenais chronique de ce qui se passait dans le monde. C'était prodigieux. Et puis, j'organisais des déjeuners avec lui à l'Élysée. Alors, c'était, je me souviens, avec Annie Girardot. Il voulait absolument connaître Annie Girardot. Donc, Annie Girardot, j'organise le déjeuner, on parle, etc. Enfin, il parle. Il parle. Elle dit pas un mot. Et elle revient et elle lui dit, à la fin, elle lui dit, et il paraît que c'est moi l'actrice.
Oui, c'est bien. Ça résume bien le personnage.
C'était éblouissant.
Mais au fond, on écoutait La fille de Madame en gauche, c'est que vous aimez aussi Offenbach. Vous auriez pu écrire des comédies inspirées du monde politique. Ça irrigue un peu certains de vos livres.
J'ai écrit Le Grand Amour, où je raconte un peu ça, parce que j'avais été embauché comme nègre. C'est-à-dire que les discours subalternes, je proposais des discours, ils remaniaient ou pas, etc. Donc, j'avais été ça. Et puis après, j'ai eu le Goncourt. Donc, et j'ai écrit Le Grand Amour, cette chronique, après le Goncourt. Donc, Mitterrand était furieux parce que j'avais un statut que j'avais pas à ce moment-là. Voilà. Donc, il va dire, on va croire que c'est moi, que je n'écris pas. Parce qu'un des points, comme Jean Daniel qui vient de disparaître, un des regrets de Jean Daniel, ou un des regrets de François Mitterrand, c'est de ne pas avoir été écrivain. Vraiment.
Voilà, puisque vous écriviez ces discours, il faut le rappeler, ou du moins une partie d'entre eux.
Mais ça a été un moment formidable. Et puis, on peut faire des actions. Alors, il y avait ce formidable ministre de la Culture, qui est Jacques Lang. On a travaillé ensemble sur des choses incroyables, notamment le prix unique du livre qui a sauvé la librairie.
C'est l'époque où vous étiez
associé. Absolument. Et puis, le début des grands travaux, quand même. Voilà. Imaginez ce que c'est que, pendant 3 ans, être avec l'architecte américain chinois, paye, et de se promener avec paye, et qui vous explique Paris, et qui vous apprend à regarder.
Même c'était la Bastille immense. Et la bibliothèque, vous en êtes fier?
Ça. Écoutez, la Bastille, pas du tout, mais c'est pas lui du tout. La Bastille, c'était terrifiant. Mais c'était un moment donné où, justement, comme on l'avait critiqué d'avoir donné le Louvre à paye, il a voulu jouer le rôle des commissions. Et on pensait que c'était un autre. Et en fait, non, c'était celui-là qui n'a aucun talent, et c'est une catastrophe.
Voilà, on va dire que c'est pas le plus réussi de Paris.
Mais c'est pas le plus réussi. Mais en même temps, ce qui est intéressant en termes d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on aurait dû être plus ambitieux. Ouais. C'est-à-dire avoir un bâtiment qui soit sur le bord du canal. Ouais. Ça aurait été complètement différent. Mais alors, moi, je trouve ce bâtiment hideux.
Alors,
on y écoute de la belle musique. Mais
on est d'accord, mais on y entend de la belle musique. Et on va passer justement, tiens, un petit peu à quelques-uns de vos goûts dans le registre plus classique, Éric Orsenna.
Thank you.
Vous l'aimez, Marcel Meyer, Eric Orsenna?
Ah, mais moi, j'ai tout Marcel Meyer.
C'est vrai?
J'ai tout Marcel Meyer. Alors, c'est pour moi l'incarnation de l'interdiction. C'est-à-dire, ça me sera à jamais interdit. C'est-à-dire, je suis mis au piano.
Ah, vous êtes mis au piano, je vous me l'aviez dit, il y a quoi, 2-3 ans déjà.
Il y a 4 ans, et donc je travaille, mais là, c'est inatteignable. Ouais. Donc, c'est au loin, je regarde avec des jumelles, il y a Lille, Marcel Meyer, qui est tout à fait au loin, à l'horizon, et donc je trouve ça formidable. Comment c'est aussi doux, comment c'est aussi enchaîné, comment c'est aussi cette répétition qui n'est jamais la même chose, comment elle respecte, elle invente. J'ai une passion pour cette dame.
Je crois d'ailleurs que c'est en partie elle qui a influencé Alexandre Tarot pour reprendre au piano justement ce répertoire français de clavecin. Alors vous je ne sais pas ce que vous êtes aussi ami de William Christie, je ne sais pas ce que vous préférez entre le piano et le clavecin pour jouer des pièces comme Les Barricades Mystérieuses.
Comme je suis un nouveau, j'ai une passion pour le piano.
Oui.
C'est vrai que le clavecin est merveilleux, mais le piano a plus de possibilités de nuances comme ça. Le drame, comme toujours avec le piano, c'est un peu le maîtriser.
Oui.
C'est pas jouer de toutes ces nuances et d'en rajouter. C'est comme dans le style, quoi.
Bien
on
sûr,
a compris.
Bien sûr.
On a compris.
Oui,
donc, le piano peut être sobre alors que le clavecin l'est forcément. Donc il y a une sorte de maîtrise là qui me passionne entre les deux. Et je suis en train d'écrire un petit texte justement sur le rapport entre le piano et le clavecin et les différentes étapes de l'invention du piano, parce que j'essaye de faire une mini biographie de Beethoven.
Avec
absolument.
Après La Fontaine et Beaumarchais, ce sera Beethoven.
Ce sera Beethoven, absolument. Beethoven.
Vous faites bien d'ailleurs.
Parce qu'on est en train.
Vous voyez plutôt du côté de Mozart ou de Rossini.
Non, mais peut-être. Mais là, il se trouve que j'ai eu une rencontre absolument lumineuse avec deux musiciens merveilleux que vous connaissez. C'est Michel D'Alberto et Henri de Marquette.
Oui.
Et figurez-vous qu'on a créé un trio qu'on a appelé le trio Fidelio. Et qui va raconter l'histoire de Beethoven. Et
ah,
on a déjà
quel instrument alors ?
Le crayon.
Voilà,
c'est un trio
pour piano,
violoncelle
et crayon.
Et on a 10 dates, dont le Théâtre des Champs-Élysées, à partir de la mi-octobre. Et alors, c'est un enchantement. Un enchantement.
Et alors, vous donnerez les sonates pour violoncelle de Beethoven ?
Évidemment.
Vous avez, Eric Orsenna, alors après cette période de l'Élysée, poursuivi quelque chose qui est très important dans votre vie, on le voit encore dans votre dernier livre, c'est le voyage à travers
toujours.
Le monde, la rencontre avec l'Afrique en particulier. Et je voulais qu'on dise un mot, peut-être avant d'écouter Salif Keïta, de la musique africaine et du Mali, auquel vous avez consacré ce beau livre qui s'appelle « Au Mali ».
Oui, alors il se trouve que j'étais donc économiste, spécialisé dans les matières premières, et donc j'ai été en tant que très jeune étudiant, membre d'une mission qui allait regarder comment on pouvait améliorer le marché de l'arachide. Donc je vais au Sénégal, on est reçu par le président Senghor avec l'ambassade, et je sais pas comment ça se fait, mais on commence à parler avec Senghor, et on parle pas du tout d'arachide, mais de grammaire et de poésie. Et moi, j'ai une grande admiration pour le poète Senghor. Et des liens quasi filiaux sont nés à ce moment-là. Donc, je suis retourné au Sénégal. Ensuite, je suis retourné au Mali. Et au Mali, j'ai découvert des musiciens magnifiques. Et ce qui se passe en ce moment au Mali, où le pays est en train de s'effondrer, de se déchirer. Et j'ai eu des moments, mais incroyables, avec Salif Keïta, avec Ali Farka Touré. Tu vois, là-bas, j'étais chez lui, et les petits violons et tout ça. C'était des moments incroyables. Et la musique est là. Et il y a une histoire incroyable avec la compagnie des chemins de fer maliennes, c'est que comme ils arrivaient toujours en retard, donc ils avaient décidé, pour calmer les voyageurs, de faire un buffet de la gare. Et le buffet de la gare, ils avaient invité les meilleurs musiciens. Et donc, où il y a eu tout le monde, Mori Kanté, etc., tous ces gens-là, et qui avaient été embauchés comme cheminots. Mais ils n'étaient pas dans les trains, ils étaient dans la musique. Et donc, ils faisaient tellement bonne musique que les gens ne voulaient plus prendre le train. Ouais. Et ça, c'est tout à fait l'histoire africaine. Et ça, c'est Bamako. Bamako que j'aime.
Yeah.
Salif Keïta, le grand musicien malien, de ces nombreux musiciens que vous avez rencontrés, Eric Orsena, au fil de vos voyages, encore récemment au Mali, malgré les difficultés.
Au Mali et au Niger, j'ai fait un long voyage au Niger qui était très passionnant. Très passionnant parce que le Niger a un État qui tient encore.
Oui.
Heureusement qu'il tient, mais avec des horreurs, puisqu'il y a une base militaire qui a été attaquée, il y a eu 75 morts au Niger, et vraiment, on pleure, quoi. C'est ce Sahel qui était si riche et qui était vraiment la terre de la tolérance. Imaginez qu'il y a à peine 10 ans encore, je me promenais comme ça à la frontière, l'endroit le plus dangereux maintenant, qui est à la frontière de Burkina, du Mali et de l'Algérie. Je me promenais là, tranquille.
Librement, oui.
Librement, c'est fini, se déchire. Vous savez, en tant qu'économiste tout simple, mais le Mali, là où ça devrait être riche, c'est pauvre, parce qu'on n'a pas investi, notamment dans l'agriculture. Et ça, là où ça devrait être pauvre, c'est riche, parce qu'il n'y a personne, et donc c'est les trafics.
Ouais.
C'est tout simple l'économie. Alors, on m'a souvent demandé pourquoi, étant donné que j'aimais l'Afrique, pourquoi je ne vivais pas en Afrique. Parce que justement, il y a trop de liens.
Oui.
Vous comprenez? Alors, et quand je trouve que il n'y a pas assez de liens chez nous, je retourne là-bas. Il y a trop de solidarité. La famille là-bas, c'est le cœur de l'affaire. Donc, quand il n'y a pas assez de famille chez nous, j'y retourne. Et puis, quand j'ai envie de respirer, je reviens chez nous.
Voilà. Ou même, vous allez maintenant, ce qui est plutôt votre cas, vers le Grand Nord.
Alors, j'ai découvert le Grand voilà. Nord.
Parce qu'il y a le Sud,
oui,
mais il y a le Nord.
Le Grand Nord,
aussi.
Oui, oui, aussi, parce que la Terre. Vous savez, j'ai rencontré Marguerite Yourcenar. Et elle m'avait dit cette phrase formidable en disant « Notre terre est notre prison, ouais. Notre cellule. Avant de la quitter, mieux vaut l'avoir explorée. » Et c'est vraiment le même sentiment. Et je découvre des choses et je n'avais pas connu le Grand Sud. Et quand Isabelle Autissier m'a proposé d'aller sur son petit bateau de 15 mètres en Antarctique. Donc j'avais peur. Donc j'ai fait le check-up le plus sérieux qu'on puisse imaginer et je disais au médecin, trouvez-moi quelque chose pour que j'ai une bonne occasion, une bonne excuse pour ne pas y aller. Ils m'ont rien trouvé, donc j'y étais. Donc on est resté 8 semaines et c'est l'émerveillement de la glace, l'émerveillement des tempêtes, l'émerveillement de ces animaux incroyables, de ces baleines, de ces albatros dont je suis fou, de tout ça. Et donc et c'est là où, encore une fois, j'aurais pas dû être économiste, moi je suis en fait géographe, hein.
Oui,
c'est-à-dire dessiner la Terre.
Vous nous conviez aussi jusqu'au détroit de Béring, hein, dans briser
alors regardez,
en nous la mer gelée.
Regardez la définition. Donc j'ai voulu savoir ce que c'était qu'un détroit. Donc j'ai été chez Littré, parce qu'il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Littré aussi. Vous imaginez,
ah oui.
Littré et Pasteur, c'est pas mal. Et alors, détroit, deux points, bras de mer resserré entre deux continents. Je me dis, mais alors, c'est l'amour. Bras de mer resserré entre deux continents. Bras resserrer deux continents. Les personnes, qu'est-ce que c'est? C'est un continent.
Oui, c'est très joli. Oui.
Et donc, j'ai découvert en visitant la formidable exposition de Léonard de Vinci, que Léonard de Vinci, qui était assez de son temps pour ça aussi, considérait que le corps, notre corps, c'est juste le résumé de la Terre. Et comme Vinci était fou de l'eau, des fleuves et tout ça, il disait exactement la même chose, c'est-à-dire le sang, c'est les fleuves. Et nos sentiments, c'est les sentiments de la Terre. Hein, il y avait cette sorte de personnalisation de la Terre. On a trouvé, comme les Grecs avec Gaïa, etc. Et donc, c'est des choses qui me passionnent. Ce genre d'écho, vous voyez, ouais, de poupée russe. Ouais. Le petit dit le grand. Et comme je me suis beaucoup occupé de jardin, c'est aussi ça. C'est japonais, le microcosme qui raconte l'univers.
Et c'est le plaisir de la lecture de votre nouvel livre que de nous éveiller à ces 1000 réflexions à travers une histoire d'amour, mais qui est elle-même le prétexte, voilà, de beaucoup de découvertes, de sciences, de réflexions, de fantaisies.
Mais la vie est au fond un prétexte.
Voilà.
Alors je dirais une sorte de redondance, mais ouais. La vie est un prétexte à vivre.
Oui, c'est bien.
On pourrait dire.
Vous avez peut-être un exemple auquel vous avez consacré un livre il n'y a pas très longtemps, c'est Beaumarchais, qui justement lui a eu 36 vies à la fois. Hein. C'est un peu votre modèle, Eric
Alors,
Orsena.
Il se trouve que j'ai travaillé sur Beaumarchais, et puis où j'ai découvert des trucs invraisemblables Beaumarchais, parce que Beaumarchais, il a écrit des choses, bien sûr, comme on sait, mais en même temps, il était quasiment avocat, il a été financier.
Il
a fait de la politique, il a été éditeur, il a été armateur, il a été beaucoup plus important que plein d'autres qui ont dit qu'ils avaient aidé les États-Unis à se libérer. C'était un personnage incroyable. Et donc, j'avais fait ce texte, et je dîne chez une amie, et on m'avait fait la surprise, terrifiante, d'être en compagnie de Jean-Pierre de Beaumarchais, que je ne connaissais pas.
Son descendant
était,
direct. Ouais,
le descendant direct. Et alors je lui remets le manuscrit terrifié, et il m'appelle le lendemain, il disant « c'est bien ». Et il m'a fait un cadeau que j'ai mis en ouverture du livre, qui est une phrase du poète portugais Pessoa, et il dit « n'être qu'un, une seule personne, n'être qu'un est une prison ».
Voilà.
Et j'ai toujours eu ce sentiment-là, sortir de la prison. Je ne sais absolument pas qui je suis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais mes projets, je les adore. Ouais. Vous voyez, c'est un peu ça l'affaire. Donc, moi, je m'en fous, mais vous savez. Donc, tous les trucs sur le moi profond et tout ça, la méditation, mais zéro. Attends, si je devais mais ne passer qu'un week-end avec mon moi profond, mais jamais. C'est pire qu'une croisière avec 3500 personnes. C'est pire.
Nous sommes ce que nous faisons.
Mais évidemment.
Bien sûr.
Vive nos projets et nous sommes quoi?
Nous allons donc écouter Eric Orsena un petit peu de Beaumarchais, parce qu'il faut dire que c'est quand même un des écrivains qui a le plus inspiré les musiciens. C'est aussi ça qui est extraordinaire. Alors évidemment, il y a Mozart, mais il y a aussi Rossini. C'est le contraste même entre les deux qui, moi, m'amuse.
Alors, c'est une histoire. Vous savez, j'ai raconté ça. Ça a été merveilleux, le passage de Figaro aux noces de Figaro. Oui. Et alors, c'est une histoire absolument incroyable. Parce que, imaginez, le 12 octobre 1781, à Versailles, la lectrice officielle de Marie-Antoinette lit un manuscrit, c'est le mariage. Marie-Antoinette éclate de rire. Et le roi, Louis XVI, qui n'était pas si con qu'on aurait pu le penser, il dit cette phrase incroyable en 1781, « Représenter cette pièce serait une inconséquence,
oui,
sauf à vouloir détruire la Bastille. » Le frère de Marie-Antoinette, qui était l'empereur d'Autriche, pas question qu'on fasse un opéra à partir de cette pièce. Et alors il demande à son poète Lorenzo da Ponte, qu'on va retrouver après, de raboter tout ce qui était un peu gênant.
Ouais.
Donc c'est comme ça que cette phrase formidable de Mozart, qui pendant l'été 1785 met des notes sur cette histoire. Et alors je raconte cette histoire, et en fait c'est le pouvoir des femmes, parce que la formidable actualité de cette histoire, c'est balance ton porc, parce que c'est le droit de cuissage.
Ouais.
Et c'est le pouvoir des femmes, c'est Suzanne, parce que Figaro il est sympathique et un peu agité, le comte c'est un imbécile, et puis on voit la comtesse, l'ancienne Rosine qui devient comtesse, qui reprend le pouvoir immédiatement. Et j'ai beaucoup discuté là-dessus, sur Beaumarchais et sur Mozart, avec Jeremy Rohrer, et ça a été une discussion, c'est un des grands moments de ma vie, où il disait, écoutez, on sait dans la musique que Suzanne n'ira pas baiser avec le comte. J'adore ça.
Et le barbier?
Le barbier, c'est formidable, parce que le barbier commence par un four. C'est-à-dire, un mois de février, il avait annoncé à tout le monde, parce qu'il avait un culot inouï. Il avait, c'est une sorte, je sais pas, de Ségolène Royal, un culot incroyable au marché. Donc, il peut dire n'importe quoi. Donc, il rassemble des gens partout. Et il dit, j'ai fait un chef-d'œuvre. Et au bout d'un quart d'heure du barbier, tout le monde baille. Et au bout d'une demi-heure, la moitié est partie, les autres sifflent, etc. Et il y a des critiques toujours judicieux qui disent « Oh là là, mais s'il y a un truc qui est sûr, c'est que jamais cet homme-là n'écrira une bonne pièce. » Donc il dit cette phrase incroyable « La cabale a faim, je lui donnais à manger. » Et pendant trois nuits et de jours pleins, à la grande angoisse des acteurs, il bouleverse tout.
Il réécrit sa pièce.
Il réécrit tout. Et à 19h le dimanche, la même pièce, refaite complètement et présentée, c'est le chef-d'œuvre qu'on connaît et qui sera après mise en musique par Rossini.
« je sais me taire et me soumets à vos arrêts. Mais ne croyez pas votre triste esclavage, non, non, ne croyez pas me retenir. L'oiseau saura s'échapper de sa cage, la cour viendra, la
Je sais pas, Eric, vous êtes sensible au plaisir de la note très, oui, très aiguë, oui, du ténor,
oui,
ou de la soprano.
Elle, comme ça, oui, oui, complètement. Et puis est-ce qu'elle va y arriver? Oui, oui.
Est-ce qu'elle va y arriver? Elle y arrive toujours
parce que c'est l'escalier, là, voilà. Telle bien descendue, mais c'est pas mal quand on monte aussi.
Quand on monte aussi. C'était, alors, donc, c'était le Barbier de Séville avec ce paradoxe, on en parlait juste avant, puisque la pièce est écrite en français par Beaumarchais, elle devient un livret italien pour Rossini, et elle est retraduite de l'italien en français.
Et ça, c'est l'Europe. L'Europe était musicale. Oui. L'Europe était la musique.
Exactement.
Complètement. Moi, je travaille sur Beethoven et donc je vois ce que c'est, cette montée comme ça, vers la 9e, avec Schiller, comment ça se passe, etc. Et on est au cœur de ça.
Voilà.
Vraiment, on est au cœur de cette conversation musicale.
Voilà. Une idée qui vous est très chère d'ailleurs, l'idée de la conversation dans la musique,
c'est l'amitié qui est le cœur de ma vie.
Alors vos conversations avec William Christie, elles durent aussi
Je l'ai rencontré par René de Obaldia. Qui
est aussi un personnage. Parce que dans ce livre où il y a tout, il y a même aussi un portrait de René de Obaldia.
J'ai un rendez-vous, là. J'ai commencé ce livre quand j'ai eu 70 ans. Je me suis dit, bon, je vais mettre en bateau tous les gens que j'aime. C'était une sorte de rassemblée. On est dans le bateau, on les met ensemble et tout ça. Et donc, avec William Christie. Donc, William Christie, je participe sans arrêt à son festival merveilleux en Vendée. Chez lui, dans ses jardins. Et donc, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a des petits concerts de 20 minutes qui sont pendant l'après-midi. Ensuite, il y a un concert un peu plus important. Il y a un concert à 20h. Et puis après, il y a un concert spirituel. Et on va dans l'église sans applaudissements. Et alors, il fait des tas de choses parce qu'il est un immense musicien, comme on sait, chef d'orchestre et tout ça, et musicologue. Mais en même temps, il transmet. Et c'est-à-dire, il a lancé quelque chose qui s'appelle le Jardin des Voix, c'est-à-dire chaque année, il y a 6 ou 7 voix qui sont un peu repérées un peu partout dans le monde et il leur donne leur chance, avec évidemment des masterclass, mais aussi en les embauchant.
Ah oui.
C'est comme ça que j'ai connu Léa de Sandré et plein de gens comme ça avec qui je travaille, on raconte ensemble des histoires. Donc eux jouent de la musique et moi je raconte. Je donne les conseils et Paul Agnew aime aussi beaucoup le contexte de la musique. Et je me souviens d'une répétition de Bird où il disait que c'était une musique d'un catholique. Il était entouré par des anglicans. Et si les anglicans savaient qu'on jouait cette musique catholique, ils seraient tous égorgés. Donc ils allaient dans des granges très lointaines et jouaient cette musique catholique le plus loin possible qu'on ne puisse pas les entendre. Et donc, c'est pas sûr que la musique adoucisse les mœurs.
En tout cas, la musique, elle est drôlement présente hein, dans tout ce que vous nous racontez, Eric Orsenna. La chanson, le baroque, le classique, l'opéra, les rencontres, Jérémy Rorer, William Christie, tout le temps, tout le temps.
De plus en plus. Franchement, ça aurait été un regret immense de ne pas avoir même le dernier ultime strapontin au royaume de la musique, ce qui est mon cas, parce que franchement, j'ai d'ailleurs ma leçon de piano ce soir-là, et donc comme je n'ai pas assez travaillé, je suis déjà honteux. Bah écoutez, là, je me suis lancé dans la valse posthume La mineure de Chopin et j'ai du mal à chanter.
À la faire chanter.
À la faire chanter. Et je regarde mes doigts avec commisération.
Votre professeur vous impressionne ?
Oui, c'est normal, parce que lui est plutôt jazz, mais je lui ai dit le classique, je voudrais savoir. Donc, l'improvisation, je suis un peu meilleur. Ah. Parce que je sais raconter des histoires. En gros, il me dit, mais comment tu trouves des trucs ? Parce que j'aime raconter.
Tiens, à propos de raconter des histoires, on va laisser François Leroux nous en raconter une. C'est Le rat des villes et le rat des champs sur la musique d'Offenbach.
De ville invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. À des reliefs d'ortolans sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville t'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. On se retire. Rats en campagne aussitôt, et le citadin de dire, achevons tout notre rang. Achevons tout notre rang. C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. Adieu donc, adieu donc.
Voilà, c'était l'occasion de passer par un autre de vos héros, Eric Orsenna, qui est Jean de La Fontaine. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ces adaptations de fables par Jacques Offenbach. Là, c'était François Leroux et Jeff Cohen qui en chantaient.
Parce que, alors, c'est pas évident parce que c'est chanson sur chanson. Oui. Parce qu'il y a La Fontaine, c'est tellement la précision.
Vous voyez que c'est déjà de la chanson.
C'est déjà
en soi,
de la chanson.
Les mots.
C'est à la fois la chanson et du droit. C'est très étonnant. Parce que j'ai fait un peu de droit dans ma vie et c'est exactement ça. C'est-à-dire pas un mot de trop. Et ça, c'est quand même le génie absolu de cette langue française. Et la perfection et la diversité de la langue française. Parce que si vous voyez aux deux extrémités, vous voyez La Fontaine et Aragon, ça n'a absolument rien à voir.
Non.
Il y en a un qui chante et l'autre qui précise. Ouais. L'autre qui est comme ça, c'est la mélodie, comme ça, il vous emporte. Et l'autre, c'est pas du tout comme ça. Et donc, c'est très frappant de voir la langue française peut donner ça. La langue française peut donner Marivaux et la langue française peut donner Racine. Et ce trésor, moi, je suis accablé de voir que vraiment, on n'utilise pas cette richesse insensée.
En général, on a l'idée que le XVIIe siècle est quand même un siècle un peu rigoureux et austère, alors que le XVIIIe est celui de la fantaisie, des amours, etc., qui vous correspondrait peut-être plus. Vous prouvez en choisissant La Fontaine
vous
aimez le XVIIe.
Le XVIIe aussi, parce qu'il y a une sorte de rigueur, et dans cette rigueur-là, on trouve la liberté. Et donc, j'ai fait deux biographies sur le XVIIe, l'une de La Fontaine et l'autre du paysagiste Le Nôtre.
Oui.
et qui est formidable, parce que quand vous prenez les jardins dits à la française, ouais. Ben, ça marche parce qu'il y a à la fois une harmonie, mais il y a aussi les bosquets, c'est-à-dire ouais. aussi il y a les surprises, et puis aussi il y a la marche, vous savez, c'est extraordinaire. Et il y a cette phrase formidable de Le Nôtre, il dit c'est l'esprit qui crée la géométrie, mais c'est la marche qui la fait vivre.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment ça. Il faut se promener comme ça. Il faut avancer. Il faut avancer pour comprendre les jardins.
Là, c'était donc La Fontaine par Offenbach. Offenbach, vous l'aimez bien aussi, je crois.
Ah, j'aime beaucoup, là. Ouais. Ah, moi, j'ai écouté, je suis fou. Moi, j'aurais adoré d'être.
Vous le citez d'ailleurs dans votre livre aussi, puisqu'il y a tout dans ce livre. Il y a la péricole.
Oui. Hein. Ah non, mais la péricole. Il grandira car il est espagnol.
Ouais, ouais. Fallait le trouver, oui. Enfin, ah, bah, c'est ça, aussi Miliaké à Lévis.
Non, mais tout. Bon. Mais bien sûr, mais il fallait mettre la musique. Non, mais le conquérant dit à la jeune indienne, tu vois, Fatma. Il dit Fatma, l'indienne. C'est quand même condition de la géographie, quand même. Tu vois, Fatma, que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit préserver la tienne. Et ce respect, arrête mon ardeur. Non, mais c'est complètement, c'est fabuleux. C'est une liberté incroyable. Liberté. Il y avait cette gaieté de cette époque qu'on a perdue.
Oui, c'est vrai. Alors, on va la retrouver, cette liberté, cette Gaieté de l'opérette, avec un extrait d'un autre chef-d'œuvre que vous évoquez aussi dans Briser en nous la mer gelée, et pour cause, vous nous en avez déjà dit un mot, mais on va préciser, puisqu'il s'agit du final de La Chauve-souris.
Le trac, ma raison est dans le lac.
J'ai voulu, m'as-tu compris?
Manger la chauve-souris.
Chauve-souris, chauve-souris, c'est ta reproche de depuis des grâces que papy souris à ses airs allumés.
Ce serait une leçon.
Toutes ces choses ne sont qu'un complot de ma façon.
Un complot de sa façon.
Mais le prince était du jeu. La soubrette,
un petit bruit.
Votre souper, une attrape à mon pète en l'air.
Un accessement.
Au délire, extase, ivresse, ange qui n'a point flotté sur mon cœur que je te caresse.
Cachons-lui la vérité que ton conscience double sa confiance.
Paternel et moi parâtre, moi je vous en théâtre.
Moi, mes scènes avant tout, aux variétés à tout coup. Je prends une avant-scène, chacun à son coup. Je prends une avant-scène, chacun à son coup.
Le final de La Chauve-souris, le chef-d'œuvre de Johann Strauss dans le genre de l'opérette, ça vous plaît, Eric Orsenna?
Ah, j'adore ça, je vous dis, il y a cette gaieté, cet emportement, comme ça, on est là, c'est vrai. Non,
mais en plus, vous avez quand même, enfin, c'est une forme de provocation amusante, un goût pour les animaux peu attirant.
Oui,
alors, La Chauve-souris, on va y revenir, mais vous avez quand même écrit un livre sur les moustiques aussi.
Alors, oui, parce que.
C'est quand même la chose la plus abominable de la création, c'est le moustique.
Oui.
La seule dont on se dit, tiens, il faudrait tous les supprimer, on perdrait rien.
Mais si. C'est pour ça que moi, j'aime bien la vie, essayer d'expliquer la vie. C'est-à-dire, avant de la quitter, essayer de l'expliquer le mieux possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est les liens qu'il y a entre les animaux.
Oui.
Parce que, donc, la chauve-souris accueille les virus les plus épouvantables.
Voilà, comme le corona, merci
comme
la
le
chauve-souris.
Corona, merci la chauve-souris, mais sans en être malheureuse, sans
non,
souffrir.
Non, il n'y a que nous qui
non,
souffrons.
Non, il y a nous. Voilà, donc, mais c'est la chaîne. Donc, elle accueille le virus.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que les chercheurs se passionnent pour la chauve-souris, parce que si on trouvait les mécanismes d'immunologie qui permettent de résister au virus, on serait tranquille.
On serait tranquille.
Et on n'a pas complètement réussi à percer les secrets de la chauve-souris. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le virus, il va dans un autre être d'accueil, dans un autre animal, qui lui donne
le pangolin,
au virus...
Par exemple.
Le pangolin, qui est un animal, un petit rongeur invraisemblable. Et là, on donne la clé pour entrer dans notre système et boum, on est malade.
Franchement,
non, mais la vie, c'est incroyable quand même, non ?
Le moustique, vous lui trouvez des circonstances atténuantes.
Non, mais oui, il est passionnant parce que, bah oui, d'abord, il a deux phases, hein. Il a une phase aquatique et là, il nourrit les larves, etc. Et puis donc, il participe à la dépollution des eaux. Et ensuite, il nourrit des tas d'animaux, dont les oiseaux.
Voilà.
Donc, Benoît, si vous voulez plus d'oiseaux, dites-le.
Oui, non, c'est pas vrai.
Non,
veux des oiseaux. Oui.
Bah, vous voulez des oiseaux.
Mais je veux
vous
pas être debout
notamment...
sur mon lit la nuit avec ma pantoufle à la main.
Ah hein. Non, mais vous mettez une moustiquaire, ça vous permet de vous rapprocher de vos partenaires éventuels que je vous souhaite.
Voilà.
Bref, c'est le bzzz comme ça. Là. Non, ils sont insupportables. C'est vrai qu'ils sont insupportables. Non, mais on est d'accord, ils sont insupportables.
Éric Orsenna, en tout cas, il se trouve que Suzanne, l'héroïne de Briser en nous la mer gelée, est une spécialiste des chauves-souris.
Mais oui, parce que.
Et que son amant, son mari, son amour, qui s'appelle Gabriel, est lui un spécialiste des écluses.
Oui, comme moi. Parce que l'écluse aussi, c'est quand même exactement l'allégorie de l'amour.
Oui.
C'est-à-dire, on retient le flux et puis hop, il s'en va et tout ça. Et qu'est-ce qu'un fleuve? C'est un personnage.
Oui.
Moi, mon prochain livre, c'est sur les fleuves du monde.
Ah oui.
Parce que j'ai créé une sorte d'ONG de réflexion sur les fleuves du monde qui vivent et qui meurent. Et donc, je suis passionné par ces grands flux. Vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, essayer de trouver sans arrêt des échos. C'est comme imiter très, très maladroitement et imiter la musique. C'est-à-dire, il y a un thème et puis il y a une variation.
Ah. En tout cas, là, il y a aussi, oui, il y a une espèce de course-poursuite
de
amoureuse, merveilleuse, avec des tas d'épisodes de rebondissements et une grande fraîcheur, je le disais. Mais il y a donc ce personnage de Suzanne, qui est le personnage central du livre, et la chanson, vous l'avez écoutée après, ou c'est la chanson qui a créé le personnage en partie?
Non, j'étais...
la chanson de Leonard Cohen.
Alors, d'abord, je suis fou de Cohen.
Oui. D'ailleurs, vous expliquez que c'est lui qui aurait dû avoir le Nobel et pas ce pauvre Bob Dylan.
Mais pauvre Bob Dylan, mais c'est terrifiant. Il est là, il est sympathique, ce Bob Dylan, mais c'est une prime à la voix éraillée. Je veux bien, au titre de la diversité, c'est très bien. Mais Leonard Cohen, c'est exactement Aragon qui, en plus, aurait été Léo Ferré, en
oui,
même temps.
Ça, oui.
Et donc, et je me souviens d'avoir discuté avec cette femme qui, de fait, s'appelait Suzanne, et je me souviens d'avoir eu, c'est quand même incroyable, mais à tant bien chanter le malheur, on se demande ce qui nous reste avec le bonheur.
C'est vrai. Donc, vous pouvez être sensible aussi à ce versant mélancolique de la vie. D'ailleurs, on le voit dans votre livre, où il y a aussi le voyage d'hiver et des passages de grande tristesse.
Hein,
voilà.
Ça,
il y a un Orsenna solaire et un Orsenna...
Comme la vie est ça,
sombre,
c'est les complexités, tout ça, douloureux, bien sûr. Bien
mais sûr. Sauf que vous expliquez avec Spinoza que les passions tristes ne produisent rien.
Alors, il se trouve que j'ai commencé à faire la philo avant de faire l'économie. Et donc, j'ai eu Gilles Deleuze comme prof.
Ouais.
Et puis Robert Misrahi sur Spinoza. Et le cœur de l'affaire, c'était tuer en nous les passions tristes. C'est briser en nous la mer gelée, mais ça pourrait être tuer en nous les passions tristes.
Voilà.
Et alors, quand on réfléchit de cette manière toute simple, et je suis dans les librairies pour un peu parler du livre, donc les gens me posent des questions sur l'amour, donc je deviens un coach de l'amour. Vous voyez, je vais ouvrir d'ailleurs une agence pour les couples, tout ça, etc., ou par les couples. Et donc, voilà. Et donc, il y a ce mécanisme-là, là, de dire, au fond... Est-ce que ce que je viens de faire, c'est animé par une passion triste ou non? Et quand vous posez ce genre de questions qui me semblent pertinentes, ben c'est pas mal. Et les gens disent, mais pourquoi vous écrivez des romans d'amour? Je dis tout simplement parce que ça vaut le coup quand même que tous les 10 ans, on réfléchisse à ce que c'est l'amour pour nous. C'est pas idiot, non?
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
Alors vous savez, qui, vous savez qu'il venait près de chez vous?
Leonard Cohen?
Bah absolument, il venait à Étretat.
Ah, mais j'ai entendu dire ça.
Mais oui, Étretat. Que près de chez vous, qui est devenu un peu chez moi, puisqu'il se trouve, je préside Normandie Impressionniste, et vous allez avoir au Havre une formidable exposition qui va s'appeler Les Nuits électriques. C'est-à-dire, les impressionnistes ont capté ce moment où l'électricité est arrivée en ville. Donc les nuits ont commencé à vivre. C'est quand même formidable.
Formidable.
Incroyable musée du Havre.
Et puis, justement, d'ailleurs, dans votre roman, Eric Orsena, il y a cette chose qui aurait paru improbable il y a quelques années. Et heureusement, maintenant, ça a changé parce que la ville a gagné une bonne réputation.
Merveilleux.
C'est que vous emmenez votre fiancée en week-end
mais
au Havre. Qui aurait eu l'idée d'emmener
mais
sa
oui,
fiancée
allait,
en week-end
allait,
au Havre il y a 10
ans? On allait à Honfleur, le grand truc.
Je peux dire ça, moi, comme un vrai qui aime ma ville.
Oui, bah oui, on allait à Honfleur et tout ça. Mais c'est très bien,
oui,
Honfleur. J'ai rien.
J'ai
rien, mais au Havre. C'est vrai qu'il y a encore 20 ans, vous disiez à une nana, allez, on va au Havre, bon, bah, alors vous prenez le râteau vite fait. Alors que là, maintenant, au Havre, il dit, ah oui, j'aime la
ah,
modernité,
la mode,
etc.
Ouais,
ouais, ouais, la mode est là. Et donc, je donne un conseil à nos auditeurs et auditrices, allez au Havre.
C'est encore, en tout cas, un passage de votre livre. Ce livre, je le disais, qui a à la fois cette grande portée d'une histoire qui nous conduit des débuts jusqu'à la fin, et puis cette multiplicité de petites histoires dans l'histoire. Ça se passe tout naturellement. Je ne sais pas comment vous l'avez pensé, construit, ou c'était au jour le jour, comme ça.
Oui, comme ça, et puis après, voilà. On reprend, et puis vous savez, j'adore, à un moment donné, on écrit les chapitres sans trop savoir à quel moment ils vont arriver.
Oui.
Puis j'ai une très très grande table de vignerons,
oui.
Et ça me plaît qu'il y ait vignerons, parce que j'aime bien. Quelqu'un m'a dit, le vin c'est la géographie liquide.
Oui.
Et j'aime bien le vin et la géographie liquide, donc on met les chapitres et puis on les passe de l'un à l'autre,
on compose,
etc.
On compose
et tout. Non, c'est très très amusant. Vous savez, quand on n'est pas musicien, on imite. Il y a une phrase qui m'a frappé vraiment complètement, c'est que quand on est compositeur, on n'a pas besoin d'entendre.
Oui. Effectivement, mais dans le cas de Beethoven, il a évidemment poussé ça très très loin. Il y a aussi, vous l'avez dit vous-même, donc Jauze, voilà, c'est un homme de 70 ans passé, le héros
oui,
du livre.
Oui,
et donc c'est
vrai.
Aussi un livre sur ce que peut être l'allégresse de l'amour quand
âges.
On n'a pas 20 ans ou 30
mais à
ans.
À tous les âges, voilà. Moi j'ai vu les âges et que j'ai lu le livre formidable de Marceline Loridan quand elle rencontre Ivan, c'était plus une enfant. Et il y a une phrase de Shakespeare, qui n'est pas le dernier, et donc il dit que les femmes, quand elles prennent de l'âge, elles sont plus diverses. Et moi, la diversité me ravit.
Voilà.
Et j'aime, voilà, les visages, les marques sur le visage et tout ça me racontent des choses. Vous savez, on a une vie sans histoire, mais je meurs. On dit d'ailleurs d'un amour, c'est une histoire.
Ouais.
Et j'ai une vie sans histoire, mais c'est le désert.
Ouais.
Le désert. Donc plus il y a d'histoire, plus je suis content, le père. Et la découverte de quelqu'un, comme ça, ou la redécouverte de quelqu'un.
Voilà.
La merveille des retrouvailles.
Voilà, parce que ce livre, en gros, finalement, il y a trois parties, tout simplement. Hein. On se rencontre, on se sépare, on se retrouve.
Ben évidemment, on se rencontre, comme ça, une sorte d'éblouissement. Donc demande un mariage, ça marche pas du tout, on divorce, on se retrouve. Et puis c'est un éloge de la magistrate qui nous a dit « Je vous divorce », parce que c'est une histoire vraie, « Je vous divorce, mais dommage, je sens beaucoup d'amour en vous. »
Voilà.
Et j'ai revu après la magistrate avec ma femme, en lui disant « Merci pour cette phrase. Si vous n'aviez pas prononcé cette phrase, non pas de juge, mais d'être humain, bah, cette phrase n'aurait pas fait son travail et ne nous aurait pas permis de nous retrouver. »
Et puis, alors, je l'ai dit, Eric Orsena, on va se quitter avec ça, parce que la chanson est très présente dans ce livre. On vient encore de l'entendre avec Leonard Cohen. Il y a une autre chanson qui est à la fois triste et joyeuse, finalement, qui est très importante dans ce livre. C'est une chanson de Barbara.
Ah, Barbara, alors là, c'était, j'ai une passion, parce que là, je l'ai vue quasiment à ses débuts, là.
Voilà. Aussi, et vous la citez comme un exemple de chanson d'amour, hein. Ah, ouais. Attendez que ma joie revienne.
D'abord, la joie. C'est l'hymne à la joie. C'est la neuvième. C'est tout ça, la joie. Ouais. Ça veut dire, la joie, c'est pas du tout le bonheur ni le plaisir. La joie, c'est une sorte de montée de tout l'être.
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec des petites satisfactions, comme ça, de détails. Donc, la joie qui monte. Et elle rend, voilà, quelqu'un arrive, elle lui dit non, non, pas tout de suite, c'est peut-être possible, mais je suis trop dévasté pour l'instant. Et attendez que ma joie revienne, Barbara, j'ai une passion pour elle.
Alors on va se quitter avec cette chanson.
Qui,
vous êtes d'accord?
Voilà, il faut toujours se quitter sur de l'espoir.
Sur de l'espoir, exactement. Merci d'avoir
et
été
mieux de l'espérance.
Avec nous ce matin, Eric Orsenna, j'espère à,
merci.
À bientôt.
Bonheur.
Attendons que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse te le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laisse-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laisse-moi, ouvre cette porte, laisse-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent essèche ma peine et la nuit calme mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que, libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne. Ils sont vivants, mes souvenirs. Pardonne-moi, c'est lui que j'aime. Le passé ne veut pas mourir.
Attendez que ma joie revienne, une belle chanson de Barbara en 1965, une chanson que vous retrouverez donc dans ce beau livre Brisé en nous, la mer gelée, le nouveau roman d'Eric Orsenna qui vient de paraître chez Gallimard. Eric Orsenna qui était ce matin mon invité.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons encore un petit moment à passer ensemble avec joie, avec légèreté. On a parlé de légèreté d'ailleurs avec Orsenna, mais là on va parler de musique légère, de musique symphonique légère, de musique récréative et tous ces genres qui sont chers à beaucoup de nos auditeurs, en compagnie de Serge Laïc. Féerie instrumentale, fantaisie instrumentale, des genres de titres de compilation qu'on retrouvait beaucoup dans les disques, par exemple, de notre regretté Pierre-Marcel Onder. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et c'est dans cette tradition que vous êtes avec nous ce matin.
Tout à fait. Alors, je vous propose aujourd'hui quelques musiques instrumentales, donc, et tout d'abord, celle baptisée Le Coq et la Poule. Alors, pour quelle raison, me direz-vous, Benoît?
Encore le salon.
Et voilà.
Ah ben voilà.
Tout simplement pour rappeler que le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce jour et que vous y serez la semaine prochaine.
Thank you.
merci Serge. Vous savez que j'adore les gallinacés. Hein.
Mais
c'est
oui, je sais.
C'est une passion secrète.
Mais je sais, je savais.
Et là, c'était donc Jean Faustin, alias Faustin Jean-Jean, auteur de grands tubes de musique légère, le plus connu étant...
C'est Les Violons s'amusent.
Les Violons s'amusent.
Qui a été repris par David Rose aux États-Unis.
Voilà, et là, c'était en 1952.
Voilà, alors je vais peut-être vous étonner, Benoît, mais c'est le duo de musiciens allemands associant l'organiste que vous estimez beaucoup, pour ne pas dire que vous adorez, vraiment, Klaus Wunderlich et l'accordéoniste Hubert Döringer. Eh bien, tous les deux, ils nous livrent une super version swing de What Is This Thing Called Love, une musique du célèbre Cole Porter.
Là, vous savez comment me faire plaisir, hein, cher Serge Laïc.
Vous étiez étonné, Benoît.
Le génial Klaus Wunderlich avec les couleurs de son orgue. Et aussi l'excellent Hubert Döringer à l'accordéon.
Absolument.
Un disque vinyle à peu près introuvable, sauf chez vous.
Voilà, tout à fait. Alors, petit hommage à présent à Gérard Calvi, qui a disparu le 20 février 2015, il y a exactement 5 ans. Il fut le compositeur de nombreuses musiques pour les spectacles des Branquignols, bien sûr, ou pour de nombreux films tels Le Petit Baigneur. Et en 1946, il crée la musique de Muguet Polka, repris dans les années 80 par le fameux orchestre de musique légère de Radio France, que nous allons écouter donc. Mais j'avais questionné Gérard Calvi à propos de Muguet Polka, qui ressemble beaucoup à une célèbre musique de Strauss. Voici un extrait de notre entretien.
Muguet Polka, c'est une composition de Gérard Calvi qui
s'inspirait
quand même
complètement.
De la Pizzicato Polka de Johann Faust, n'est-ce pas Gérard?
Oui, oui, ben, faut mieux ressembler à Strauss qu'à Landru. Non, mais il y a une raison très simple, c'est que on m'a demandé de... Je crois que c'était en première commande, c'est ça. Ouais. Et un monsieur charmant m'a dit, voilà, je monte un spectacle pour les animaux, eux, et nous. Et alors, il y avait une petite danseuse qui ne savait danser que le pizzicato de Strauss. Mais comme je faisais de la musique, il m'a dit, ben, écoutez, on va pas changer la chorégraphie. Alors, j'ai dit, bon, très bien. Alors, je fais un démarquage. Alors, voilà, c'est un démarquage parfait de Strauss. Merci, monsieur Strauss.
Et donc, il y avait encore un orchestre des musiques légères à Radio France au début des années 80.
Tout à fait.
Serge Elaïc. On le regrette, hein, moi. Enfin, moi, je le regrette. Je voudrais bien me le recréer si j'y arrive un jour.
Oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir.
En tout cas, c'était l'occasion de rendre hommage au grand Gérard Calvi qui nous a quittés il y a 5 ans et qui était évidemment le complice de Robert Derry et des Branquignoles, le grand maître de la musique légère, le patron de la SACEM pendant longtemps président.
Bref, tout à fait.
Et le père d'Yves Calvi, le journaliste bien connu qui était venu nous en parler.
Exactement. Et alors, un autre plaisir, c'est de vous faire entendre, Benoît, l'orchestre de mandoline de la ville allemande d'Elberfeld, qui joue Loin du bal, vous allez voir, vous connaissez, une œuvre du français Ernest Gillet que vous évoquez, Benoît, dans votre livre L'Opérette en France, page 99. Ernest Gillet, qui avait obtenu un grand succès avec l'opérette La fille de la mère Michel à la fin du 19e siècle, avec Daniel Rich, écrit avec Daniel Rich. Quant au morceau Loin du bal que nous allons écouter, donc on peut l'entendre aussi dans le film de Laurel et Hardy, Maître de ballet, en 1943.
En un temps très populaire, les orchestres de mandoline. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup,
non,
Serge Elaïc.
Vraiment, je ne crois pas.
Mais en tout cas, celui-là, eh bien, c'était en 1964, l'orchestre de mandoline d'Elberfeld, sous la direction de Ludwig Mauelshagen, dans Loin du bal d'Ernest Gillet, compositeur français.
Absolument. Alors, nous allons terminer avec une musique légère, typiquement dans le style anglais, en compagnie du compositeur Peter York, qui fut d'ailleurs arrangeur, entre autres, de l'orchestre réputé de Jack Hilton. Là, il dirige le Queen's Hall Light Orchestra dans sa composition Holiday Excursion.
Thank you.
Excursion de vacances, j'aime bien traduire les titres anglais à contre-courant, par le Queen's Hall Light Orchestra, une œuvre de Peter York, dirigée par le compositeur, enregistrée vers 1960.
Tout
merci en tout cas, Serge Laïc, pour cette promenade enchantée.
Merci beaucoup, Benoît.
Et on vous retrouve dans quelques semaines.
Absolument, merci pour tout.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Alexandre Billard, Audrey Guélil, réalisation Christine Amadeau. Et vous l'avez compris, donc la semaine prochaine, je serai au Salon de l'Agriculture, mais l'émission sera enregistrée la veille. Si vous voulez donc venir y assister, eh bien ce sera vendredi à 14h15 dans le Hall 1 du Salon de l'Agriculture à l'espace Radio France. Vous êtes tous les bienvenus.
À réécouter sur francemusique.fr.